bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par prier, si vous voulez bien. Père éternel, je te remets ce temps que tu as préparé, ce temps que tu as prévu. Je te prie d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce que tu veux nous dire ce matin. Que nous puissions aussi tendre l'oreille à ta parole. Tu es le Dieu de connaissance et nous voulons toujours apprendre à plus te connaître. Alors merci pour ta présence ce matin. Merci de bénir chacun et chacune ici présent dans ce lieu ce matin. Et béni sois-tu, Père. Amen. Bon, alors tout d'abord, je tenais à remercier Jean-Marc et toute l'équipe pastorale pour me donner cette opportunité, du coup, d'apporter le message ce matin. C'est une démarche challengeante et ça m'encourage moi aussi et ça m'apprend beaucoup dans ma lecture aussi et dans ma relation avec Dieu, dans l'interprétation aussi des textes. Comme Jean-Marc a pu le dire, j'ai pu à plusieurs reprises partager des pensées au travers des Royal Rangers notamment. Je suis animateur scout, donc voilà, lors de veillées spirituelles le soir ou de temps spirituel dans la journée. Alors c'est sous une forme, on va dire, différente, plus adaptée pour la jeunesse. La démarche reste la même. Donc voilà, vous assistez donc à mon premier exercice de partage à une église, avec joie pour moi en tout cas. Voilà. Donc lorsque Jean-Marc m'a sollicité pour apporter quelque chose ce matin, plusieurs textes, plusieurs thèmes sont venus un peu à mon esprit. J'ai tourné pas mal de jours. Et puis j'ai eu le désir de travailler particulièrement sur un thème et un texte qui est venu aussi. On le retrouve dans 1 Roi au chapitre 19, à partir du verset 3. Pas facile la table. J'attends qu'il s'affiche. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. » Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après ce feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. » Ici, nous avons Élie qui, juste avant ce passage, vient de tuer 450 prophètes de Baal, qui est le dieu qui a été introduit dans toute la Samarie par la reine Jézabel, et qui, après cet épisode, se voit être menacé de mort pour avoir tué tous ces prophètes par la reine Jézabel, qui est l'épouse du roi d'Israël, Achab. Et Élie, dépassé par tous ces événements qui viennent d'avoir lieu, et on pourrait le comprendre, va aller jusqu'à demander la mort à l'Éternel, au verset 4. Ce que Dieu ne va pas vouloir. Il va lui envoyer un ange pour le nourrir et lui dire de se relever. Élie va ensuite se rendre à Horeb, et arrivé là-bas, l'Éternel va lui donner rendez-vous devant la montagne. Et j'aimerais juste reprendre ce passage-là, ces trois versets sur lesquels on va plutôt se centrer ce matin. Donc dans 1 Roi 19, versets 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» On a dans ces quelques versets une rencontre avec Dieu qui se passe, non pas dans le brouhaha de l'orage, ni dans la violence d'un feu ou dans la violence d'un tremblement de terre, mais on nous dit dans un bruissement doux et léger. Et après cela, Dieu va lui poser la question « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie va répondre la même chose que la première fois. Mais ce coup-ci, et après avoir rencontré Dieu, l'Éternel lui dira « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. » Après, on va pas lire la suite, mais il va dresser une liste exhaustive des personnes à oindre, des personnes à placer. Finalement, on retrouve un peu une reprise du service d'Élie, après cet épisode-là de difficulté. Je crois que, au-delà d'une rencontre, on a affaire ici à un texte qui nous présente une notion, voire même un principe, qui me semble être un principe spirituel, qui est de vivre une rencontre avec Dieu, au-delà de tous les événements qui nous environnent, des difficultés que Élie pouvait avoir. Vivre la rencontre par la douceur, non par la violence, mais bien par l'amour de Dieu, comme Élie a pu le vivre. D'être invité par Dieu à le retrouver dans un murmure, dans un calme intérieur, mais aussi extérieur. Alors selon les versions, plusieurs termes peuvent être utilisés. On a le doux et léger dans la version Semeur, on a aussi un calme, une voix ténue, dans la Nouvelle Bible Second, un murmure doux et léger. En tous les cas, le terme hébreu utilisé est damama, qui signifie le chuchotement, le calme. C'est une notion qu'on retrouve aussi bien dans la relation avec Dieu, comme dans cet épisode, mais aussi dans notre rapport à nous-mêmes, dans les rapports interpersonnels. Je ne sais pas si vous suivez le tennis ou les sports individuels, mais on a souvent des images de sportifs, au tennis notamment, qui, sous l'excès peut-être d'une frustration ou d'une colère, cassent une raquette. Alors, je dis une raquette, le sac peut y passer parfois. Qu'est-ce qu'on y gagne à s'énerver? Qu'est-ce qu'on gagne dans son propre jeu? Est-ce qu'on n'y peindrait pas de la concentration peut-être, ou du jugement? La signification hébraïque que donne Chouraki est, après le feu, une voix, le son d'un silence subtil. le son d'un silence subtil. On est presque sur le fameux oxymore, un silence assourdissant. Je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma récemment, il y a un film qui s'appelle Oppenheimer, qui raconte la vie d'un scientifique physicien suédois. Mais dans ce film-là, le réalisateur a décidé de prendre pour compositeur de la bande originale Ludwig Göransson, le suédois, qui compose d'une manière un peu similaire à Hans Zimmer, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ont été voir ce film, peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais les moments qui sembleraient être les plus bruyants, c'est-à-dire l'explosion de la bombe atomique notamment, se passe sous silence. Et le compositeur amène cet événement-là en faisant monter l'orchestre. Alors on a beaucoup d'instruments à cordes frottées, d'instruments à vent aussi, et on sent cette atmosphère monter. Et le moment qui, à l'image, paraîtrait le plus brillant, coupe tout son. Et de le voir au cinéma, c'est encore plus fort, parce qu'on ressent que d'un seul coup, dans le cinéma, il y a un silence complet. Même pas une mouche qui vole, finalement. Et ce silence-là parle beaucoup plus que tout le brouhaha de l'orchestre d'avant. Et je crois que Dieu nous parle aussi dans ces silences-là. Et Dieu l'a parlé dans le silence avec Élie. Mais on peut se demander qu'est-ce qui amène ce calme ? Pourquoi Dieu vient-il rencontrer Élie dans ce silence et non directement dans le désert ? Élie était plutôt tranquille dans le désert, on imagine. Peut-être dans l'ouragan aussi, il aurait pu le rencontrer. Si on remonte les événements un peu de cette histoire-là, on peut voir que le contexte qui précède cette rencontre est plutôt chargé. En effet, Élie est en pleine guerre contre les prophètes de Baal. On pourrait même dire que dans sa vie, à ce moment-là, c'est un peu la tempête, un peu le chaos. Et quand Élie sort de tout ça, il vient à être à bout, finalement, il va aller jusqu'à demander à Dieu de l'enlever de la terre, parce qu'il estime qu'il ne vaut pas mieux que ses ancêtres. Mais combien de fois, nous, dans nos vies, on peut être à bout et dire à Dieu, regarde ce que je fais, ce que je suis, ça ne vaut rien à côté de mon voisin. Mon service n'est pas aussi voyant que mon voisin. Ma dévotion n'est pas aussi voyante que mon voisin. Et on tourne en rond, et on cherche Dieu dans la tempête, en vain. Parce qu'Élie aurait pu rester là, couché un moment, aussi, dans le désert. Et dans ce texte-là, Élie ne se met pas en marche de lui-même. C'est Dieu qui va venir le chercher, là où il est, précisément, perdu dans le désert, seul, dans son état de doute et de dépression, et va lui donner rendez-vous. Il va lui parler une fois, Élie va faire mine de ne rien entendre, deux fois, trois fois, et Élie va se mettre en route. Il va lui donner rendez-vous dans une montagne, sur une montagne bien précise, à Horeb, qui est en fait le mont Sinaï, là où Moïse a rencontré Dieu. Et c'est sur cette montagne-là, à l'écart de tout le chaos de ce que Élie a pu vivre. Alors on nous parle d'une distance d'environ 400 km. Bon, pour ceux qui ont du mal à se représenter, ça correspond à Lorient-Poitiers. Donc si jamais vous êtes dans le chaos ici, allez à Poitiers, vous serez peut-être plus tranquille. Bon, je ne vous promets pas que vous y trouverez la montagne de l'Éternel, mais c'est le chemin qu'Élie a fait en tout cas. Et à l'écart de tout le chaos d'Élie, dans un bruissement doux et léger, Dieu va rencontrer Élie et va le renouveler pour être à nouveau disposé pour repartir dans son service. On peut voir aussi un schéma que la Bible nous expose dès le début dans la Bible. On lit dans Genèse 1 au chapitre 2. Or, la terre était chaotique et vide, qui sont la traduction du tohu-bohu. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit. Et la lumière fut. Après le chaos, le calme, la lumière. Est-ce que nous savons, est-ce que nous sommes conscients que Dieu plane au-dessus de nos eaux, peut-être déchaîné nos tempêtes? Est-ce que nous sommes conscients que si on, nous, de notre démarche, nous souhaitons le rencontrer sur cette montagne-là, d'un souffle léger, il apaise ces tempêtes et calme les eaux? Dans ce texte du premier livre des Rois, Dieu va interpeller Élie après qu'il ait passé la nuit dans la grotte, en lui disant une première fois « Que fais-tu ici, Élie ?» Drôle de question, puisque c'est Dieu qui l'a amené ici. Et la réponse d'Élie va être plutôt étonnante aussi. En effet, il ne va pas lui répondre directement à la question en disant « Voilà pourquoi je suis ici pour ça. » Non. Il va lui exposer les circonstances de ce qu'il vit en ce moment. Il lui explique les événements qui viennent d'avoir lieu juste avant et lui dit que sa vie est en danger. Comme nous, nous pouvons le faire finalement. Quand l'Éternel nous interpelle, parfois, simplement notre réflexe est de dire « Je ne cherche même pas à comprendre pourquoi je suis là. Mais regarde, je suis là pour ça, pour ça, pour ça. » C'est ce qu'Élie lui dit dans 1 Roi 19 au verset 10. Pardon. Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste. Et voilà qui cherche à me prendre la vie. » Après que l'Éternel ait rencontré Élie, il lui reposera la question « Que fais-tu ici, Élie ?» Réponse à laquelle Élie dira la même chose. « Que fais-tu ici, Élie ? Où en es-tu ?» Alors, comme a pu dire Jean-Marc ce matin, cette question peut nous renvoyer aussi à la première question que Dieu a posée à l'homme. « Où es-tu, Adam ?» On lit dans Genèse 3, au chapitre 3, verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Combien nous aussi, nous pouvons avoir peur de nous présenter devant Dieu parce que nous vivons, parce que nous venons de vivre ou par les événements qui ont eu lieu dans nos vies, parce que les circonstances ne sont parfois pas favorables. On peut vouloir s'isoler loin des autres et loin de Dieu et aller finalement se cacher, ce qui peut sembler être une sécurité. Et c'est ce que fait Adam quand il a peur et qu'il part se cacher, mais c'est aussi ce que fait Élie dans ce texte. Menacé de mort, il va d'abord fuir la ville, pour survivre. Et il va se rendre à Beersheba. Là-bas, on nous dit, il va y laisser son serviteur, qui est là, démonstration d'un isolement, pour aller ensuite s'enfoncer dans le désert. On pourrait dire se cacher dans le désert. On peut se demander aussi, qu'est-ce qui crée cette peur ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher, finalement, de nous approcher de cette montagne ? Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais dans les colos pour enfants, on utilise parfois le jeu de la lune magique pour leur apprendre la politesse. Alors ce jeu se compose d'une soi-disant baguette magique qui finalement peut être n'importe quoi. Ça peut être un stylo, ça peut être un bâton, une fleur. Alors souvent c'est quelque chose de droit pour faire l'image d'une baguette. Ça n'a pas d'importance. Et avec cette baguette-là, il faut dessiner soi-disant une lune dans les airs, comme ça. Tac. Alors la lune est dite belle si au moment où vous avez récupéré la baguette, vous avez dit à la personne en face, merci. La lune est dite moche, pas belle, sinon on ne dit pas merci. Et le dessin, en fait, n'a en réalité aucune importance. Je pourrais dessiner un point, un trait, un dessin d'un quart d'heure. On sait déjà si la lune est belle ou pas belle. Et ceux qui ont déjà joué au jeu vous diront, les gens qui ne connaissent pas la réponse passent tout leur temps à se concentrer sur le dessin. Dire, tu as pris cet angle-là, tu as dessiné ce sens-là. Là où je veux en venir, c'est que Dieu ne regarde pas nos circonstances comme nous pouvons le faire, à la forme que l'on donne à la lune, ou qu'on veut lui donner. Lui regarde au merci, à cette rencontre, à cette communication. Tant que nous fixons notre regard sur nos circonstances, nous ne pouvons pas nous placer face à face avec Dieu. Comme pour le jeu de la lune que je viens de vous présenter, il est nécessaire de décaler son regard et tendre l'oreille, et non les yeux. Avons-nous parfois tendance à vouloir gérer nos tobu-bohu en oubliant que l'Esprit de Dieu plane juste au-dessus de nous, comme il l'a fait dans Genèse 1, comme il le fait avec Élie. C'est ce qui s'est passé avec les disciples lorsque Jésus dormait dans le bateau, alors que la tempête éclatait sur la mer. Le fait que Jésus dorme pendant la tempête montre ici un calme dans le chaos, on pourrait même dire une sérénité pendant la tempête. Mais ce qui est le plus fou, c'est que Dieu venait de multiplier les pains quelques heures avant. Donc les disciples l'avaient constaté, mais ne l'avaient sûrement pas compris. On lit dans Matthieu 8, au verset 26, « Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Les disciples auraient pu s'appuyer sur ce qui venait de vivre avec Dieu. On ne peut pas se rendre compte, mais je pense que ça doit être un peu intimidant ou marquant de voir cette multiplication. Mais non. Est-ce qu'à ce moment-là, les disciples se demandaient si Dieu ne se limitait qu'à certains domaines ? On ne le sait pas. Mais est-ce que nous, parfois, nous ne le disions pas à nous-mêmes ? Est-ce que cela veut dire que les miracles de Dieu ne peuvent pas se transposer ? On se dit peut-être, Dieu a fait un miracle dans ma vie professionnelle. C'est cool, c'est énorme. Par contre, pour ce qui est de mes loisirs, peut-être moi, je vais gérer moi-même. Par contre, dès que c'est la vie pro, je ferai appel à Dieu. Si j'ai besoin de manger, si j'ai besoin de multiplier mes pains, Dieu sera là. Par contre, si je suis dans la mer et qu'il y a la tempête, est-ce que Dieu sera là ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on change de domaine, on doit repartir à zéro ? Non, heureusement. Mais je crois que ce texte nous montre bien combien c'est un défi pour le chrétien que de se souvenir de la fidélité de Dieu pendant les temps difficiles. Et même les disciples y étaient confrontés. Mais Dieu ne veut qu'une seule chose, retrouver la relation avec sa création. On a ce schéma qui découle où tout a commencé avec le calme et la confiance dans le jardin d'Éden. Puis la peur a pris le dessus. Adam a eu peur, s'est caché, le péché est descendu. Mais maintenant, ce que Dieu souhaite, comme il l'a souhaité pour Élie lorsqu'il était allongé dans le désert, c'est de retrouver cette relation. C'est que nous venions le rejoindre en haut de cette montagne et constater l'esprit qui plane au-dessus de nous, en hauteur. Et que Dieu puisse nous rencontrer et nous renouveler dans ce silence subtil, dans son murmure, comme Dieu voulait renouveler Élie. Et que comme Élie qui s'est laissé interpeller par l'ange de Dieu dans le désert, aussi têtu il a pu être pour les quelques fois que l'ange de Dieu lui reparlait, nous aussi nous nous laissions interpeller, peu importe là où les circonstances nous ont amenés, peu importe là où le chaos a été semé, peu importe la météo intérieure qui plane en nous, que ce soit la pluie ou simplement des nuages, que nous n'oublions pas que le soleil de Dieu plane au-dessus de nous. Pour pouvoir se retrouver face à face avec Dieu sur cette montagne, sur ce mont Sinaï. Parce que là où tu es, il y a une pensée de Dieu, un rendez-vous de Dieu qui veut te faire découvrir cette météo, qui veut chasser ces nuages et la tempête pour laisser place au soleil. Donc, n'ayons pas peur de monter en haut de cette montagne, d'être attentif à Dieu, car Dieu nous attend. Et si parfois il nous appelle et nous redescendons la tête, comme il y a pu le faire, cela ne nous condamne pas. Dieu est amour et Dieu veille, et Dieu aurait rappelé Élie autant de fois que nécessaire pour qu'Élie vienne le rencontrer à cette montagne, hors de ce chaos, dans la douceur et la bienveillance de Dieu. On nous dit dans certaines traductions, dans la quiétude, dans le fait de ne pas être inquiet. Dieu est amour et nous le montre encore dans ce passage. Il nous remet une armure, il nous redonne la force pour que derrière, comme Élie, nous puissions repartir pour notre service. Voilà, je voulais vous laisser ce verset qui m'a conduit aussi durant cette préparation de cette pensée-là, de cette méditation. Dans Ésaïe 32, au verset 17, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Merci.